Ce soir, on va ouvrir nos Bibles en Matthieu, chapitre 2. Et on va lire une partie de l'histoire et on va en faire une application pour nos vies ce soir. C'est tellement plein d'instructions, ce qu'on lit ici dans les Écritures. Dieu a donné la parole. Dieu a donné la parole. Psaume 68:11. Et grande est la compagnie qui l'a publiée. Dieu a donné la parole. Et elle était pour la guérison. Psaume 107, verset 20. Dieu a donné Christ. Et grande est la compagnie qui le publie dans le monde entier. On a eu une bénédiction récemment. On a eu une vidéo sur une présentation sur le Pakistan. Et il y a quelqu'un d'un autre état qui a vu ça sur Internet et qui a envoyé un don. Un grand don. Un très gros don. Et on veut dire gloire à Dieu pour ça. Le Pakistan. Waouh. Avec l'évangile. Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est bon. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez juste vous lever pour une seconde? J'ai l'impression que vous n'avez pas très envie. Peut-être parce que c'est mercredi. C'est mercredi, vous avez été debout toute la journée. Et si vous vous tourniez vers voir votre voisin et que vous lui demandiez son nom ou que vous lui disiez « Je te connais », c'est chouette d'être ici. Les fleurs sont rouges, les chants sont beaux, le message est édifiant, le royaume est présent. Dites-moi 10 fois Alléluia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Alléluia. C'était des Alléluia par la foi. Donc, Matthieu chapitre 2, tandis que vous êtes toujours debout. Verset 13. Après qu'il se fut retiré, Hérode a causé des problèmes. C'est quelqu'un de méchant. C'était un renard. Jésus a dit, allez dire à ce renard. Vous pouvez vous asseoir. L'histoire de Natalia, rapidement. Je me suis levée au milieu de la nuit, vers 3 heures du matin. J'étais dans ma chambre. Et la lumière de mon voisin s'est allumée. Et c'est une lumière qui réagit au mouvement. Et j'habite pas près à ce point de mon voisin. Pas au point, quand je bouge dans ma chambre, de faire allumer la lampe de son garage. Et j'étais vraiment en train de m'interroger, est-ce que c'est moi qui ai fait allumer cette lampe? Alors je me suis approchée de la fenêtre, et il y avait un renard dehors. Et c'était lui qui avait déclenché la lumière. C'était lui. Et je l'ai étudié pendant un instant, je l'ai regardé bouger. Il regardait d'un côté, il va très vite. Il est très, très vif dans ses mouvements. Il a juste fait le tour de la maison et il est parti très rapidement. Hérode était comme ça. Il était très vif, très capable. Mais les vaches ne sont pas comme ça. Et quand on laboure un champ, on peut difficilement tourner et on n'est pas vif, on n'est pas rapide. On est juste tranquille en train de labourer dans le ministère. On n'est pas assez intelligent pour regarder autour et pour voir qui regarde. Et même ce qu'on est en train de faire, on est juste en train d'aller de l'avant par la foi dans le ministère. Mais Hérode était tellement intelligent, il a tué tous les enfants de moins de 2 ans. Mais Joseph et Marie étaient en quelque sorte en train de labourer tranquillement dans le plan de Dieu. C'est comme ça qu'on vit. Le Saint-Esprit nous conduit. Et Dieu est au ciel. Et les anges nous aident. Les anges nous aident vraiment. On lit ici dans ce passage que je vais vous lire. Les 7 fonctions des anges. Ils observent notre marche. 1 Corinthiens 4, 9. Ce sont des messagers du roi. Luc 1, 11. Ils nous aident dans nos difficultés. Hébreux 1, 14. Ils combattent pour notre victoire finale. Daniel 12, 1 pour Israël. Ils sont des gardiens de l'ordre divin du monde. Ils exécutent le jugement divin. On lit ça dans le livre de l'Apocalypse. Et ils adorent aussi Dieu. Luc 2, 13 et 14. Les anges nous aident à avoir une perspective. Parce qu'ici, dans cette histoire, on les voit plusieurs fois en train d'aider les gens qui labourent, Joseph et Marie. L'ange est venu à Marie et lui a dit qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu en elle et a conçu Christ en elle. Joseph a reçu un rêve au moins 2 fois. Et dans ce verset 13, on lit « Un ange du Seigneur apparut à Joseph en songe, disant « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Le fait que Christ soit venu dans le monde est quelque chose de tellement radical. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant que croyants? C'est tellement radical. Mais c'est aussi facile d'être emmêlé. Le verbe pour emmêler en grec, c'est empleko. Et ça veut dire connecté, lié. Tisser. Dans le Nouveau Testament, c'est utilisé pour parler d'un croyant qui est intriqué avec les choses du monde. Et je pensais à ça, Marie et Joseph, s'ils avaient été occupés des choses du monde, quand l'ange a dit « Prends l'enfant et va-t'en en Égypte », peut-être ils auraient pu dire « Non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas y aller ». On fait tous ça. le fait d'être emmêlé dans les choses du monde, c'est notre fonctionnement de nature pécheresse dans le monde. Mais si Dieu est radical à ce point, au point qu'il a envoyé Christ dans le monde, afin qu'il puisse venir dans notre cœur, alors, et qu'à travers Christ, on puisse vivre une vie qui soit quelque chose comme un ange. Le bénéfice d'être un ange, c'est qu'ils ont une perspective. Ils ne sont pas emmêlés dans les affaires de ce monde, pour beaucoup de raisons, parce qu'ils ne sont pas des hommes, parce qu'ils n'ont pas de nature pécheresse, parce qu'ils ont une perspective. Mais les Philistins ont dit à propos de David qu'il avait une sagesse d'ange, la sagesse d'un ange de Dieu. Et on sait que quand Étienne a été lapidé, son visage brillait comme un ange. Et nous, en tant que croyants, même si on n'est pas des anges, on est plus haut que les anges, comme dit Hébreux 2. Mais c'est bon pour nous d'avoir la perspective qu'il y a quelque chose en dehors de nous-mêmes. Et donc, on lit les Écritures, et Dieu nous donne la parole. Et on sent la liberté, alors qu'on est en train de labourer notre champ, comme des ouvriers qui n'ont pas à avoir honte. On n'est pas assez intelligent pour imaginer où on doit aller, comment on doit faire pour échapper au mal. Il y a un beau verset qui dit « La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse ». Si je n'ai pas le début de la sagesse, alors je n'aurai pas le milieu ni la fin de la sagesse. Si je n'ai pas le commencement de la sagesse, j'arriverai jamais au milieu ni à la fin. Mais ceux qui craignent l'Éternel ont le commencement de la sagesse et ils arrivent au milieu et ils arrivent à la fin de la sagesse. Et c'est ce qui se produit dans votre cœur. C'est ce qui se produit dans notre cœur. Christ est réel. Et les anges qui nous servent et qui nous aident, comme on a dit ici, ils ont parlé à Joseph et il a eu la foi et l'obéissance radicale dans la foi de descendre en Égypte. Et on peut présumer, bien sûr il l'a dit, puisqu'un ange lui a dit dans un rêve. Mais non, c'est très possible que Joseph aussi aurait pu se conduire comme un renard. Et très souvent nous aussi, on est enclin à prendre la vie dans nos propres mains et à vivre d'une façon très limitée en étant emmêlé dans les choses du monde. Et notre confiance n'est pas dans Christ qui est venu, dans la parole de Dieu qui nous parle, dans l'assemblée locale qui nous édifie, dans la vision et dans le but du Pakistan ou d'aimer notre pays. Mais au lieu de ça, on a tendance à prendre notre vie avec notre propre sagesse, notre propre façon de penser. Et comment on peut savoir ça? La réponse, c'est qu'à la naissance de Jésus, il y a eu très peu de gens qui ont su qu'il était là. Et à sa naissance, il y avait très peu de gens qui étaient conscients de ce qui se passait. Et à sa naissance, en Jean 1, 51, les anges montaient et descendaient, mais il y avait très peu de gens qui comprenaient qui il était. Matthieu 16, « Qui disent les hommes que je suis ?» Et Jean-Baptiste, Ésaïe, un autre prophète. « Et qui dites-vous que je suis ?» Et c'est ce qu'on pourrait dire ce soir, ici, 6025 Moravia Park Drive. C'est ce que je pourrais vous dire. Ici, au 6025 Moravia Park Drive, c'est ce qu'on pourrait dire. C'est le résultat d'une foi radicale. Et je vais expliquer ça. Verset 13. « Prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je te le dise. Va, obéis, vis par la parole de la grâce. » la parole de la foi. C'est tellement incroyable ce que Christ a fait radicalement pour le croyant. Comment il nous a transférés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de Dieu. Et il n'y a vraiment rien de plus pour nous que de grandir dans la grâce et dans la connaissance du royaume, du nouvel homme, de la parole de vérité qui nous rend libres. La liberté de la grâce, la puissance et l'autorité du royaume qui est sur la terre. Quand Jésus est venu, les anges l'ont vu. Quand il était dans le désert en Marc 1, il est dit que Satan est venu et l'a tenté. Satan est venu et l'a tenté. Et il était avec les bêtes sauvages et les anges. Christ était avec les bêtes sauvages et les anges et Satan et son père. Personne d'autre. Tout ce qui a été créé était là, à part les hommes. Les bêtes sauvages, Satan, les anges, Christ et son Père. Et alors qu'il vivait et qu'il suivait son Père, les anges allaient et venaient. Et il avait un point de vue divin sur les choses et il n'était jamais emmêlé dans les choses du monde. Et quand on commence à être emmêlé dans les choses du monde, c'est pas nous, c'est la nouvelle nature qui est en nous et qui ne peut pas être emmêlée dans les choses du monde. Et juste comme Joseph a dit à Marie, il faut qu'on parte maintenant, il faut qu'on aille en Égypte. Mais on n'est jamais allé là-bas. Ça n'a pas d'importance. Dieu a une provision pour nous et on doit y aller comme ça. Pas comme un renard qui est très intelligent et qui peut faire tout ce qu'il veut et qui peut peut-être même réussir. Mais il ne réussira jamais dans ce à quoi je suis appelé. Les anges et le ministère et la personne de Christ, la foi et l'obéissance. Et Dieu qui délivre, Dieu qui sauve, Dieu qui révèle. Le fait de comprendre les promesses. Notre cœur est réchauffé, nous sommes profondément encouragés. Et les anges sont venus à Christ pendant qu'il priait à Gethsémané. Et devant Ponce Pilate, il a dit, j'aurais pu appeler 12 légions d'anges. Et à la tombe, quand il a été, où il était enseveli, un ange est apparu et a dit à Marie, qu'est-ce que tu attends ici? Il n'est pas ici. Va en Galilée, va dire aux disciples et à Pierre qu'il est ressuscité. Et ensuite, quand il a été élevé, il est monté dans les nuages et soudain, il y a eu des anges qui étaient avec lui pendant qu'il est monté au ciel. Et il s'est assis à la droite du Père. Et cette personne vivante est maintenant notre personne, la personne qui demeure au milieu de nous. Et les anges vont et viennent sur nous. 1 Pierre 1, versets 10 à 12. Et les anges vont et viennent sur nous et nous donnent une perspective. On a la parole de Dieu, on est capable de voir et de comprendre qu'il y a un royaume qui est sur la terre et qui est plus grand que la chair et le sang. Il y a un but ici qui est plus grand que le renard et ses machinations et son activité et son habileté. Ça ne peut pas être comparé au royaume qui est présent en nous. Et qui a vu Christ pendant qu'il était là? Les bergers? Anne aussi, au temple. Elle était en train de prier, de jeûner, depuis des années. Siméon aussi. Il l'a reconnu quand il est entré et il l'a pris dans ses bras. Et il a dit, ce bébé sera pour l'élévation et pour la chute de beaucoup en Israël. Vous ne comprenez pas ça. Mais si vous le suivez, juste comme un laboureur va tout droit, sans faire demi-tour. Certains d'entre vous, vous en êtes peut-être à l'étape 82 dans votre vie chrétienne, et quand vous tombez, vous avez besoin de le savoir, quand vous tombez, quand vous trébuchez et que vous vous trouvez emmêlé dans les choses du monde, vous ne retournez pas à l'étape 1, Vous restez à l'étape 82. Vous ne pouvez jamais retourner en arrière. Vous êtes à l'étape 82. Vous avez juste à vous confesser et à repartir en avant pour aller vers l'étape 83. Et quand vous tombez à l'étape 83, bien sûr, on n'est pas au courant de ces étapes. C'est juste une image que j'utilise pour illustrer le principe. Et quand vous arrivez à l'étape 432, vous ne pouvez toujours pas retourner en arrière. Le renard est peut-être par là, mais vous pouvez le chasser et dire « Moi, je suis simple, je suis sage, je vais tout droit comme un laboureur. » La crainte de l'Éternel, c'est le début d'une sagesse divine qui va croissant. Et bien sûr, elle n'a aucune fin. Elle a un début avec une compréhension infinie qui est donnée aux croyants dans sa marche de foi. Joseph, tu dois aller en Égypte. D'accord, j'y vais. Et il prend Marie là-bas et il l'emmène là-bas. Et c'est comme votre vie aussi. C'est pas notre vie, c'est sa vie. Sa vie est la vie qu'on a à vivre. Et ensuite, il y a une autre perspective. C'est en Hébreux 12. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins, Abraham, Isaac, Jacob, Déborah, Samson, Noé, tous ces gens sont en train de nous regarder. La Bible le dit. Il y a des gens dans le ciel qui nous regardent. Mais ce n'est pas nous, c'est à Christ qu'ils regardent. Bien sûr, c'est nous. Mais c'est juste comme eux, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ils ont été radicaux dans leur foi. Ils ont prié de façon radicale, ils ont vécu de façon radicale par la foi, ils ont cru ce que Dieu avait dit. Mais si on est si sage, on risque de ne pas prendre l'enfant et de partir en Égypte. Si on est si habile, on va prendre nos propres décisions. Et si on vit juste en fonction de nous-mêmes, on va vivre une vie qui est juste normale, par nous-mêmes. Mais ça n'est pas la joie des anges qui chantent dans le ciel. Ça n'a pas la puissance des anges qui viennent pour se faire sortir Pierre de prison. Vous connaissez l'histoire. Il est en train de prier. Les frères sont en train de prier pour Pierre et Pierre est en prison. Pierre est en prison et ils sont en train de prier. Et l'ange vient. Et il arrive juste à travers les gardes. Il passe à travers les gardes et les portes s'ouvrent et les chaînes tombent des mains de Pierre. Et Pierre sort et il va rencontrer les frères et les sœurs. Des anges ont fait ça. Les anges ont visité Daniel quand il était dans le puits des lions. Et ils n'ont rien pu lui faire. On a tout intérêt à être comme une vache qui laboure, en allant tout droit, mais en suivant ce que Dieu dit et en s'occupant pas de ce qu'il y a autour. Avoir un mystère, avoir de la puissance, des prières qui ont des réponses, des offrandes miraculeuses, des visites, des missionnaires, un brisement, une humilité, une réalité, la personne de Christ sur la terre. Et il est toujours sur la terre, il n'est pas parti. Le Saint-Esprit est en nous. Et on doit avoir une perspective. C'est le témoignage du chapitre 11 des Hébreux. Chacune de ces personnes a fait quelque chose. Et je crois dans ce chapitre, ils l'ont fait une fois. Noé a bâti une arche, une fois. Abraham a quitté sa maison, une fois. Sarah a eu un enfant une fois. Jacob a adoré, appuyé sur son bâton à la fin de sa vie. Jéricho est tombé une fois. Et c'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas nous mettre dans une boîte. Ce n'est pas une activité religieuse répétée, répétitive. C'est le caractère unique d'une personne qui arrive et qui nous délivre dans le mystère de notre foi qui nous aime de façon inconditionnelle, qui nous révèle sa grâce et sa miséricorde. Et au lieu d'être emmêlé dans le monde avec nos troubles et nos erreurs et nos difficultés, on secoue tout ça et on dit non, Christ est venu pour que je sois libre. Et on tient ferme dans notre liberté et on ne se laisse pas emmêler à nouveau et être lié sous le joug du monde. Mais on se secoue de tout ça parce que cette personne est ressuscitée pour qu'on puisse être libre. Et la personne est un don radical de Dieu. 2 Corinthiens 9:15. J'étais chez le barbier ce matin et c'est un vieil homme, quelqu'un de bien. Et il a dit, il paraît qu'on ne peut plus dire joyeux Noël, on dit joyeuse fête. Et c'est parce que les gens deviennent antichrist. Le monde devient antichrist. Mais on dit joyeux Noël. Comme dans les anciens temps, on disait joyeux Noël. Et il me disait, non seulement les gens veulent que Christ sorte de Noël, mais ils veulent aussi légaliser les mariages entre les gens du même sexe. Et c'est le monde dans lequel on vit. Mais l'Esprit de Christ qui est en nous, il est un croyant. L'Esprit de Christ qui est en nous a un ministère. Pas de condamnation envers les homosexuels. On n'est pas ici pour condamner qui que ce soit. Jean 3, 18 et 19. Mais on est là pour briller comme des lumières et pour dire qu'il y a une meilleure vie, une meilleure façon de vivre. Une réponse de la part de Dieu, la liberté et non pas être emmêlé dans les choses du monde. La liberté, une possibilité d'avoir une personnalité qui fleurit dans la réalité de cette personne, de Christ qui est ressuscité, de Christ qui est venu, de Christ qui est ici et de Christ qui est en nous. Et le message n'est rien de moins qu'une personne qui est Christ. On mange ça, on se nourrit de ça. Les gens regardent depuis le ciel. Peut-être 200 milliards de personnes, je ne sais pas combien de milliards de personnes ont vécu sur la planète depuis le début. 20, 30 milliards, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est peut-être. Et combien sont au ciel en train de rendre témoignage? Et ils sont sans nombre. Impossible à dénombrer tous ceux qui sont allés au ciel par le sang de l'agneau. Pas seulement par la foi en Dieu, mais par l'expiation, la foi en Christ. Vous croyez en moi, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. L'attaque du monde contre l'Église. Le monde attaque le fait d'être des bœufs qui labourent. Ils veulent qu'on soit des renards, comme Hérode. Mais Dieu est beaucoup plus grand. Et quand il nous dit « va en Égypte », on le fait simplement. Et on ne comprend pas la grande image, mais on fait juste sa volonté. Et il dit « rassemblez-vous, n'abandonnez pas votre rassemblement ». Et on le fait. On ne comprend pas forcément pourquoi, mais on le fait. C'est ce qui arrive. Et on cultive nos propres dons et notre motivation dans notre cœur. Parce qu'on vient dans notre assemblée locale. Et c'est d'une importance critique. Il y aura des trésors accumulés au ciel pour les bœufs qui auront labouré fidèlement. C'est ce qu'ont fait tous ces gens en Hébreux 11. Ils ne savaient pas que leur nom serait dans ce chapitre. Et on est maintenant en 2007 et ils ne savaient pas qu'on lirait leur nom. Et d'ailleurs, ils ne s'en préoccupent pas, bien sûr. Mais c'est incroyable que les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. L'histoire de Dieu n'est pas l'histoire des hommes. Et Dieu est très intéressé. Et Jésus dit, dites aux renards que je suis ici aujourd'hui et le deuxième jour et que le troisième jour je serai ressuscité d'entre les morts. Excusez-moi, je me suis trompée. Il a dit, allez dire aux renards que je ressuscite les morts. Et va aller lui dire, je guéris les malades, je ressuscite les morts, et le troisième jour je serai ressuscité. Il n'a pas parlé de la crucifixion. C'est un beau message sur les renards. Et vous qui êtes si intelligent, nananananer, devinez quoi? Il y a une résurrection, il y a une victoire, il y a un pardon, il y a une transformation. Il y a une Église vivante et un Saint-Esprit vivant. Et les voies de Dieu sont meilleures que les voies des hommes. Et on a besoin de faire attention, de se rappeler qu'on n'est pas si intelligent. On n'a pas le commencement de la sagesse, le milieu ni la fin, parce qu'on est trop intelligent. Et il dit, l'assemblée locale, la parole vivante, le Saint-Esprit, s'aimer les uns les autres, et la prière qui fait bouger les choses, fait changer les vies des gens. L'année 2008 arrive. Prions que cette année qui vient, on voit des choses se produire. Dans notre Église, des hommes et des femmes qui prennent de bonnes décisions et qui disent « Ok, j'arrête, je secoue tout ça et je fais telle chose par la foi et j'avance juste par la foi. » Et les anges vont camper autour de celui qui craint l'Éternel. Psaume 47. C'est le commencement de la sagesse et vous allez découvrir plus encore de sagesse et encore plus de sagesse et ça continue tout au long de votre vie. Et je veux lire encore ça avant de terminer. La hardiesse du rationalisme n'est pas dans ce qu'il fait, mais dans la façon dont il critique. Le rationalisme est une méthode de critique. Mais quand on arrive à agir, le rationaliste est quelqu'un de terriblement timide. Rien de hardi n'a jamais été fait au nom du rationalisme. Devant les grandes crises de la vie, le rationaliste ne sait plus quoi dire. Il est très doué pour écrire des livres, pour montrer les futilités de la religion, mais aucun rationaliste n'a jamais produit l'aventure ou la noblesse que les gens qu'il critique ont produit. L'homme raisonnable est, après tout, un homme timide. Et quand il s'agit de certaines choses, il refuse de s'aventurer. Ces gens, dans le chapitre 11 d'Hébreux, ils n'étaient pas des rationnels, des rationalistes, dans le sens le plus élevé du monde. Ils n'étaient pas timides. Ils étaient hardis et courageux pour Dieu. Et c'est une période pour nous où on peut faire ça vis-à-vis de nos voisins. Faisons-le cette semaine. C'est le moment idéal pour dire à nos voisins, tiens, on fait une fête pour Noël, venez. Ici, la semaine prochaine, par exemple, on va avoir une fête à l'église. Du chocolat, du café, des cookies, de la communion après le culte, de la musique. Et si vous voulez amener un cadeau de 5 dollars pour quelqu'un, vous l'amenez ici, vous venez mercredi soir. Et vous allez vous le donner à quelqu'un. Vous n'avez qu'à faire ça mercredi prochain. D'accord? Est-ce que c'est clair? Si vous voulez le faire, faites-le, mais ce n'est pas obligé. Et allez voir vos voisins 3 ou 4 portes plus loin de chez vous et allez leur dire « Joyeux Noël ». Je suis désolée de ne pas vous avoir rencontré plus tôt. Comment allez-vous? Je m'appelle Tom, j'habite ici. Si vous pouvez, mercredi prochain, est-ce que vous voudriez venir avec moi rencontrer mes amis dans mon église? On va avoir une belle soirée pour Noël, il y aura un message. Et pourquoi pas venir avec moi dimanche à l'église? Le rationalisme nous limite, mais la foi et la hardiesse. Il y aura peut-être un temps dans votre vie où Dieu vous dira, comme à Joseph, « Je sais que tu l'as jamais fait jusqu'à maintenant, je sais que ça va te paraître bizarre, mais prends ta femme et ton fils et va en Égypte. » Et il l'a fait. Et on est très reconnaissant pour ça. Et les anges étaient avec lui. Et quand il a fait ce pas de foi, il a juste fait ce qu'il était supposé faire. Et les anges étaient avec lui, et l'ont emmené. Et on a un sauveur aujourd'hui. Dieu nous veut dans son programme. Il veut nous utiliser. Il utilise nos prières, notre amour, notre pardon. Il nous utilise. Touchons notre communauté et notre pays. Ils en ont besoin et il n'y a pas d'autre réponse. Ce n'est pas la moralité ni la spiritualité. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. On ne peut pas le faire, mais Jésus-Christ le fait. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le message de pour aujourd'hui. C'est la personne qui sauve notre âme. C'est la personne qui nous a enlevé nos péchés, qui nous a donné un nouveau nom et qui nous donne une vie radicale qui transcende toutes les choses de ce monde et qui est au-delà de toutes les critiques du monde. Amen.